FI. À l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 18h à Bamako, 20h à Kiev.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du Grand Journal du Soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, cette décision de la Cour pénale internationale qui fait largement réagir.
La CPI demande l'arrestation de Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Gaza depuis un an. L'actualité également en Ukraine. Vladimir Poutine, le président russe, confirme l'utilisation aujourd'hui d'un missile intercontinental. Nous sommes à Kiev. Ce coup de théâtre aux États-Unis, il quitte déjà le navire Trump. Matt Gaetz renonce à devenir ministre de la Justice. Les Maliens ont un nouveau Premier ministre. Les militaires au pouvoir ont demandé à Choguel Maïga de partir pour le remplacer par le général Abdoulaye Maïga. Dans l'actualité française, nous serons au procès Samuel Paty. Michel Barnier était devant les maires et puis la neige perturbe les transports.
Et puis après ce journal, un voyage au pays interdit des outils. Voilà comment l'hebdomadaire Le Point titre un grand reportage publié ce jeudi et consacré au Yémen. Nous appellerons l'un de ses auteurs.
Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont encore fait aujourd'hui plusieurs dizaines de morts.
Des bombardements romains le jour où la Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, son ex-ministre de la Défense, mais aussi le chef de la branche armée du Hamas. Et dans les trois cas, crimes de guerre qui crimes contre l'humanité commis depuis le 7 octobre en Israël et à Gaza. Alors très nombreuses, vous le disiez, sont les réactions, nous allons y venir. Une décision de la CPI accompagnée un peu plus tard d'une mise en garde du procureur de la Cour pénale internationale. Karim Khan appelle les 124 États membres à se conformer au mandat d'arrêt émis à l'encontre de Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et Mohamed Dieff. Nicolas Falaise, bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, Nicolas, dans quelles circonstances Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense risquent-ils d'être arrêtés?
Eh bien, en théorie, s'ils voyagent dans l'un des 124 États membres de la Cour pénale internationale, cela ne concerne donc pas leur propre pays, Israël, qui n'est pas membre de la CPI, cela ne concerne pas la Russie, la Chine ou l'Inde, qui n'ont pas signé ou pas ratifié le traité qui instaure le tribunal international. Même situation pour les États-Unis. Le principal allié d'Israël ne reconnaît pas la compétence de la CPI. Sans surprise, ce soir, la Maison-Blanche rejette catégoriquement les mandats d'arrêt. Rien n'empêchera donc Benjamin Netanyahou de voyager à Washington sans être inquiété.
Alors restent les nombreux 124 États membres de la CPI.
Et pour certains d'entre eux, ces mandats d'arrêt créent une situation nouvelle et embarrassante, particulièrement pour les pays qui à la fois revendiquent une relation forte avec Israël et qui soutiennent le principe d'une justice internationale. Embarras de la France, par exemple. Écoutez le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Christophe Lemoine. Il tenait son point de presse hebdomadaire ce jeudi et Muriel Paradon lui a demandé si la France était prête à arrêter Benjamin Netanyahou.
Nous soutenons l'action du procureur de la Cour qui agit en toute indépendance. La lutte contre l'impunité est notre priorité. Nous avons ratifié le statut de la Cour pénale internationale dès 2000 et nous apportons un soutien continu à l'action de la CPI. Donc notre réaction sera en ligne avec ses principes.
Si Benjamin Netanyahou vient en France, est-ce que concrètement il sera arrêté?
Alors, je vais pas. C'est une question qui est juridiquement complexe. Donc je ne vais pas faire de commentaires ultérieurs aujourd'hui. C'est juridiquement une situation qui nécessite beaucoup de précautions.
Cet embarras, Nicolas, signifie-t-il que la politique et la diplomatie peuvent compliquer le travail de la justice internationale?
Alors on en a une illustration très nette ce soir avec la déclaration du président argentin Milei. Son pays, l'Argentine, est membre de la CPI et pourtant le président dénonce ses mandats d'arrêt qui, selon lui, criminalise la défense légitime d'une nation. La Cour pénale internationale ne possède pas sa propre police. Il revient aux États membres d'agir. Rappelons que le président russe Vladimir Poutine est lui aussi visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Il s'est rendu en visite en Mongolie en septembre dernier, sans être arrêté dans ce pays, pourtant membre de la Cour pénale internationale.
À noter que l'autorité palestinienne et le Hamas saluent l'émission par la CPI de mandat d'arrêt contre deux dirigeants israéliens, sans dire la moindre allusion au mandat émis simultanément par la cour contre le chef de la branche armée du Hamas. C'était Nicolas Falaise.
Autre grand titre dans l'actualité ce soir, Adrien, Vladimir Poutine, le président russe, qui confirme l'utilisation d'un missile balistique hypersonique aujourd'hui en Ukraine.
Oui, ce missile intercontinental a été lancé sur la ville de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Le président russe parle d'un test réussi, d'une cible atteinte, en précisant que cette frappe était une réponse à l'utilisation des missiles à longue portée anglais et américains. Nous sommes en direct de Kiev, où l'on retrouve notre correspondante Emmanuelle Chasse. Bonsoir.
Bonsoir.
Kiev dénonce l'usage de ce missile intercontinental. Quelle réaction avez-vous recueillie sur place ?
Alors, Volodymyr Zelensky a pris la parole ce soir pour dénoncer cette nouvelle attaque russe. Le président ukrainien affirme que la Russie se sert de l'Ukraine comme d'un terrain d'entraînement pour ses armes et que le missile utilisé présente toutes les caractéristiques, vitesse, altitude d'un missile balistique intercontinental. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a quant à lui déclaré attendre les conclusions des experts pour établir s'il s'agit effectivement du premier emploi de missile balistique intercontinental lancé en Ukraine. Sur ce dernier point, en Occident, on ne s'avance pas sur ce missile. Des officiels américains sous couvert d'anonymat parlent d'un missile de moyenne portée, mais cette frappe intervient dans un contexte d'escalade après que la Russie ait repris ses frappes à grande échelle sur l'ensemble du pays. Je rappelle que dimanche, plus de 200 missiles et drones ont à nouveau visé le secteur énergétique ukrainien. Mercredi, plusieurs ambassades avaient fermé leurs portes à Kiev en raison du danger élevé de nouvelles frappes. On s'attend donc ici chaque jour à une démonstration de force de la part de la Russie en réponse à l'usage par l'Ukraine des missiles à moyenne et longue portée britanniques et américains sur le territoire russe.
Merci Emmanuel Chasse en direct de Kiev. Alors si Vladimir Poutine confirme l'utilisation de ce missile balistique aujourd'hui en Ukraine, autre mise en garde, la Russie n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine, vient de déclarer le président russe. La politique aux États-Unis et ce premier coup de tonnerre dans le casting qui entoure Donald Trump. Le président élu avait choisi le républicain Matt Gaetz pour diriger le ministère de la Justice. Mais face à de nombreuses controverses, David Thompson en direct des États-Unis, finalement, Matt Gaetz renonce à devenir ministre de la Justice de Trump.
Annonce surprise, oui, du désistement du très controversé Matt Gaetz sur le réseau social X avant même sa confirmation qui s'annonçait incendiaire au Congrès. Il est clair, écrit-il, que ma confirmation est devenue gênante pour le travail crucial de la transition Trump. Je retire donc mon nom de la liste des candidats au poste de procureur général. Ce désistement intervient juste après la révélation d'une seconde accusation de relations sexuelles avec une mineure que le désormais ex-candidat au poste de ministre de la Justice aurait eu au cours d'une orgie en 2017 avec une de stupéfiants interdits. Selon les médias américains, cette relation avec cette prostituée a duré pendant 4 ans. Cette jeune femme a témoigné devant le comité d'éthique de la Chambre qui a enquêté pendant 3 ans sur les frasques sexuelles présumées de Matt Gaetz. Les élus de la Chambre ont décidé hier de ne pas diffuser son rapport, mais certaines de ces informations cruciales fuitent évidemment dans la presse américaine et c'est ce qui a sans doute précipité le retrait surprise du sulfureux candidat de Donald Trump pour la justice. Du coup, les regards se tournent maintenant vers Pete Hegseth, autre choix de Trump cette fois au poste de ministre de la Justice. Ce présentateur de Fox News est lui aussi rattrapé par des accusations, cette fois d'agression sexuelle qui remonte à 2017. Mais il reste activement soutenu par le président élu et son vice-président élu qui est actuellement au Sénat pour le soutenir d'ailleurs.
David Thompson, merci à vous en direct des États-Unis.
Et il est 19h, bientôt 9 minutes à Paris et à Alger. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur RFI avec Adrien Delgrange en Algérie. Adrien, depuis 6 jours, nous étions sans nouvelles de l'écrivain d'origine algérienne, Boualem Sansal.
Et selon les informations de notre correspondant sur place, l'auteur naturalisé français a été arrêté samedi soir près d'Alger. Alors, critique plutôt acerbe du régime de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Son arrestation survient en pleine période de raidissement entre la France et l'Algérie. Paul Lorgerie, bonsoir.
Bonsoir.
Connaît-on les raisons de cette arrestation ?
Alors, les autorités algériennes sont pour le moment restées silencieuses. Mais ce qui a mis la puce à l'oreille de certains proches de Boualem Sansal, interrogés par des confrères, eh bien, c'est que l'écrivain n'a plus donné de signe de vie depuis son arrivée sur le sol algérien samedi dernier. Donc, d'après le quotidien Le Monde, je cite, il aurait été interpellé par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure Algérienne et devrait être présenté incessamment devant le procureur de la République. Une arrestation qui survient près de 2 mois après une interview données aux médias français d'extrême droite Frontières, dans laquelle il affirmait, je cite, que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Des propos largement repris par les médias marocains et qui auraient fortement pu déplaire à Alger. Car le sujet des frontières demeure épineux entre les deux pays, qui se disputent aujourd'hui la souveraineté du Sahara occidental. En juillet dernier, le président français Emmanuel Macron avait d'ailleurs reconnu la souveraineté marocaine de cette ancienne enclave espagnole, entraînant de fortes tensions entre Paris et Alger.
Merci beaucoup Paul Lorgerie. Et puis un mot de Kamel Daoud, l'écrivain franco-algérien qui vient d'obtenir le prix Goncourt dans une tribune publiée chez nos confrères du quotidien Le Figaro. Kamel Daoud espère vivement que son ami reviendra parmi nous très bientôt. La politique au Mali, où tout est allé très vite pour changer de Premier ministre. Les Maliens ont appris hier soir que Choguel Maïga et ses ministres, autrement dit l'ensemble du gouvernement, devaient quitter le pouvoir. Décision prise par les militaires qui dirigent le pays depuis maintenant 3 ans et demi. Choguel Maïga part et aujourd'hui, il est remplacé par le général Abdoulaye Maïga.
Alors on en vient à ce scandale de corruption, Adrien, qui est parti d'Inde, mais qui a une portée internationale.
Et oui, c'est le groupe Adani qui est au cœur de ce scandale. Un groupe industriel indien spécialisé dans la production d'électricité, incontournable et proche du pouvoir indien. Adani est accusé par les États-Unis d'avoir payé l'équivalent de 230 millions d'euros au gouvernement indien pour obtenir un contrat dans le domaine énergétique et au passage tromper des investisseurs américains. Comme Bastin est à Bangalore.
Voilà qui ne va pas améliorer la réputation mondiale du groupe Adani. Depuis 2 ans, la firme Hindenburg l'accuse de trafiquer ses cours avec des montages financiers opaques. C'est désormais le département de justice des États-Unis qui mène la charge contre ce géant industriel. L'affaire est complexe, mais peut être résumée ainsi. Adani a secrètement reversé des sommes très importantes au gouvernement indien pour s'arroger l'exclusivité d'un appel géant à fournir de l'énergie solaire. Or, cette corruption a été réalisée avec l'argent d'investisseurs américains qui n'étaient évidemment pas mis au parfum. L'entreprise a réagi en niant en bloc les éléments avancés par les États-Unis, mais ceux-ci semblent très détaillés. Le cours du groupe a plongé de plus de 20% sur les marchés. Rahul Gandhi, leader de l'opposition en Inde, qui dénonce depuis longtemps la proximité d'Adani avec le Premier ministre Narendra Modi, a exigé son arrestation. Le gouvernement du Kenya a de son côté annulé un contrat de 700 millions d'euros avec le groupe. Comme Bastin, Bangalore, RFI.
Dans l'actualité française, le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Aujourd'hui, Naïm Boudaoud, accusé de complicité d'assassinat terroriste, était interrogé par la cour d'assises.
L'homme de 22 ans, 18 au moment des faits, est soupçonné d'avoir aidé Abdullah Anzorov à se fournir une arme la veille de l'assassinat du professeur, mais aussi de l'avoir conduit sur les lieux du drame le jour J. C'est sur cet épisode qu'il a longuement été questionné. Récit du trajet de Naïm Boudaoud jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine, Amélie Beaucourt.
C'est avec des messages menaçants que Naïm Boudaoud se réveille ce 16 octobre 2020. « Je vais t'étrangler », lui écrit Abdullah Kanzorov, énervé de la grasse matinée de son ami alors qu'il lui avait demandé de le déposer en voiture à Rouen pour récupérer de l'argent laissé à un autre accusé. Naïm rejoint son ami en fin de matinée et prend la direction de Rouen. Mais changement d'itinéraire, Kanzorov dit vouloir acheter un pistolet à billes. « Il me dit qu'il a un problème avec des Africains », se remémore-t-il, et me demande de le déposer ensuite à Mantes-la-Jolie, une ville du département voisin. Mais Naïm Boudaoud a des impératifs ce jour-là. Il envoie un message à sa mère, lui demande de prétexter un problème pour qu'il puisse se défiler d'Anzorov, mais son plan échoue. La cour est surprise. Anzorov vous menace, vous fait perdre votre temps, semble vous embarquer dans une embrouille qui ne vous concerne pas. Pourquoi accepter tout de même de le dépanner ? J'ai du mal à m'affirmer, justifie le jeune homme. J'ai toujours eu une faible personnalité. C'est finalement une adresse à Conflans-Sainte-Honorine qu'entrera Anzorov dans le GPS. Mais Boudaoud dit ne pas s'en rendre compte. Il a autre chose en tête à ce moment-là. Rejoindre au plus vite sa copine qui l'attend. Ce qu'il fera juste après avoir déposé son ami à une intersection à sa demande. Il avait une dégaine de cambrioleur avec son sac et ses vêtements noirs, analyse-t-il après coup. Ce n'est que tard le soir qu'il apprendra son acte sous le choc.
Amélie Beaucourt, au procès de Samuel Paty. Dans l'actualité française, on apprend à l'instant que les agriculteurs en colère ont levé le blocage du port de Bordeaux. Un peu plus tôt dans la journée, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, leur avait promis dans les prochains jours des annonces. Et puis enfin, des flocons de neige et la machine se grippe. Un épisode neigeux traverse en ce moment la France avec quelques conséquences. Des retards à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Les compagnies aériennes appelées à annuler 10% de leurs vols. Enfin, plus de 200 000 habitations privées d'électricité, notamment dans l'ouest de la France.
Et en tout cas, ici, à Issy-les-Moulineaux, ça s'arrange. Hein. Il pleut plutôt ce soir. La pluie a cédé, la neige a cédé la place à la pluie. Merci beaucoup, Adrien Delgrange. C'était le grand journal du soir sur RFI.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Un voyage au pays interdit des outils, c'est ce qu'on vous propose dans quelques instants. Et c'est ainsi que l'hebdomadaire Le Point titre un grand reportage qui est publié ce jeudi, qui est consacré au Yémen. On sera avec l'un de ses auteurs dans quelques instants. Et puis direction l'Azerbaïdjan, l'hôte encombrant, c'est le moins qu'on puisse dire, de la COP29, mais qui tente, vous allez le voir, de montrer patte blanche pour séduire les journalistes qui couvrent la grand-messe pour le climat. Mais pour l'heure, voici les sports. Avec Florence Valmet. Bonsoir Florence.
Bonsoir Romain.
On débute avec du basket, hein, puisque l'équipe de France est sur le parquet. Elle affronte Chypre en ce moment à Nicosie. C'est un match qui compte pour les éliminatoires de l'Euro 2025.
Oui, et premier match de l'ère Frédéric Fotoux depuis le départ de Vincent Collet après les Jeux Olympiques de Paris. Une équipe rajeunie depuis cet été, puisque de nombreux joueurs ont pris leur retraite internationale. Un groupe emmené par le seul médaillé olympique présent, le meneur et capitaine Andrew Albici. Pour le moment, les Français sont en tête, mais difficilement. Le score pour le moment est de 47 à 44 dans le troisième quart-temps.
Alors, direction à présent le Stade de France. Là, on va parler rugby. Demain, troisième et dernier match de la tournée d'automne, la France sera opposée, alors c'est un gros morceau, à l'Argentine.
Oui, après le Japon, mais surtout la Nouvelle-Zélande, hein, la semaine dernière, où les Bleus ont livré une prestation à couper le souffle, dominé en première période, puis finalement victorieux d'un petit point face aux All Blacks. Les hommes de Fabien Galthié défient donc ce vendredi l'Argentine, cinquième nation mondiale et qui termine une excellente saison. L'ailier français Louis Bielle-Biarré, impressionnant contre les Blacks, justement, s'attend encore à une très grosse opposition face aux Pumas.
C'est sûr que l'Argentine, c'est une très très grosse équipe. Ils ont battu quasiment toutes les meilleures nations mondiales pendant le Rugby Championship. Ils nous ont battu aussi en tournée d'été. Ils sont pas loin de battre l'Irlande. On les connaît un peu parce qu'il y en a pas mal qui jouent en France. Ils ont beaucoup beaucoup de caractère et ils lâchent jamais rien. Je pense qu'on l'a vu encore ce week-end face à l'Irlande. Et puis maintenant, ils jouent très bien au rugby. Donc c'est un gros challenge et qu'on a hâte de relever en tout cas.
Propos recueillis par Victor Missistrano. France-Argentine, c'est à suivre demain soir. Coup d'envoi 20h10 TU.
Alors ils font beaucoup parler d'eux, particulièrement depuis les Jeux Olympiques. Les frères Lebrun sont au Japon, à Fukuoka. Ils disputent les finales du circuit WTT. Vous avez peut-être deviné, il s'agit de tennis de table.
C'est ça, Félix et Alexis se sont qualifiés pour les demi-finales du double de la compétition. Ils ont été accrochés par la paire japonaise Harimoto Matsushima, mais s'imposent finalement 3-7-1. En revanche, ils ont eu moins de succès en simple. Alexis s'est incliné dans la journée dès le premier tour en 4 manches face au numéro 2 mondial, le chinois Lin Shidong, malgré quand même une belle performance. Hier, le plus jeune de la fratrie, Félix, numéro 4 mondial, n'avait pas pu résister en 8e à sa bête noire lors des championnats d'Europe, l'allemand Duda.
Allez, on termine avec un point sur le Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale, sans assistance, puisque les skippers, Florence, se rapprochent de l'Équateur.
L'Équateur dans le viseur, après avoir passé pour certains le fameux poteau noir, un endroit situé dans les tropiques où les conditions météo sont imprévisibles. Les marins peuvent se retrouver scotchés sur place car il n'y a pas de vent, ou alors tout le contraire, subir des grains violents. Et écoutez ce que ça donne avec Sébastien Simon.
Voilà, le poteau noir. Le pot à merde. Le vent a tourné de 80 degrés. Il est monté à 20-25 nœuds. Il pleut. Voilà. Voilà le poteau noir. Il paraît qu'il fait beau, mais non, pas toujours.
Vous l'avez entendu, des conditions.
Avec les images, ça doit être impressionnant.
Ouais, ça doit être encore plus impressionnant. Déjà, rien que le son. Sébastien Simon, qui est actuellement quatrième de la course, donc il a passé plutôt bien ce poteau noir. En tête du Vendée Globe pour le moment, Thomas Ruyant devant Sam Gutschild et Charlie Darlin.
Et dans le journal des sports, merci beaucoup. Signé ce soir, Florence Valmet. Allez, 19h19, ici à Paris. On va se pencher à présent sur un pays clé au Moyen-Orient et dont le rôle est crucial dans le conflit actuel, c'est le Yémen. Bonsoir Guillaume Perrier.
Oui, bonsoir.
Journaliste à l'hebdomadaire Le Point, vous rentrez précisément d'une mission au Yémen, mission dont vous rendez compte dans un reportage fleuve de 11 pages publié ce jeudi. Pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler qui est à la tête aujourd'hui du Yémen ?
Alors, moi, je me suis rendu au nord du Yémen, à Sanaa, la capitale, notamment, qui est contrôlée par le gouvernement Houthi, qui est donc issu d'une rébellion du nord qui a pris le pouvoir dans la capitale en 2014. Et donc, s'en est suivi une guerre civile. Et le gouvernement légitime du Yémen est aujourd'hui réfugié au sud, à Aden. Donc, on a un territoire qui est divisé en au moins deux entités, si ce n'est plus.
Et alors, comment les Houthis sont-ils perçus par la population au Yémen ?
Bah, c'est assez paradoxal parce que les Houthis sont leur fief hein, et donc se trouvent dans les régions du Nord. En même temps, ils appartiennent à une minorité religieuse et ethnique, les Zaïdites, qui sont plutôt donc de confession chiite, pro-iranien, dans un pays qui est lui à majorité sunnite. Donc les Houthis sont une minorité, mais ils contrôlent aujourd'hui un territoire qui abrite la majorité de la population. Donc il y a évidemment une forme de défiance, hein, souvent très silencieuse, sourde, mais ils ne font évidemment pas l'unanimité au sein de la population yéménite.
Et quels sont les moyens aujourd'hui dont bénéficient les Houthis dans ce pays qu'est le Yémen ?
Alors ils sont très limités, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète, qui est encore plus après 10 ans de guerre civile, de bombardements, qui s'est engagé donc depuis le 7 octobre 2023 dans cet axe de la résistance pro-iranien et anti-israélien. C'est un pays qui est extrêmement isolé, encore plus donc cette zone contrôlée par les Houthis qui subit également un embargo de la communauté internationale. Donc c'est une situation qui est catastrophique sur le plan humanitaire. Hein. J'ai pu me rendre dans l'hôpital de la ville d'Odeida, sur la mer Rouge. On voit un enfant sur deux de moins de 5 ans au Yémen est touché par la famine. On voit vraiment l'étendue du désastre, si vous voulez. Et puis en plus, ce régime Houthis, le peu d'aide internationale qui parvient au Yémen, elle est évidemment détournée. Et les ressources servent d'abord les buts militaires de cette milice.
Alors justement, les buts militaires, est-ce qu'ils sont aussi servis par l'Iran ? À quel point l'Iran aide les Houthis ?
C'est évidemment très difficile à documenter au cours d'un reportage pendant lequel le contrôle du régime s'exerce à tous les instants. Hein. C'est évidemment des sujets extrêmement sensibles. Les réponses sont empreintes de langue de bois, mais on sait évidemment que des armes iraniennes hein, se trouvent au Yémen. Les Houthis sont principalement armés par l'Iran et également, selon des enquêtes récentes, par la Russie. Il y a énormément de trafic d'armes également dans la région qui peut venir de plusieurs pays du Moyen-Orient. Voilà. Et les Houthis ont également, ce que j'ai compris au cours de ce reportage, ils ont également développé leur propre capacité militaire, hein, évidemment avec du transfert de technologie iranien. Mais ils ont montré ces dernières semaines à quel point ils disposaient d'armes perfectionnées, des drones, des missiles qui sont capables d'atteindre le territoire israélien, qui se trouve à 2000 km du Yémen.
Et des moyens qui leur permettent aujourd'hui, c'est ainsi qu'ils s'illustrent, pas plus tard qu'il y a quelques jours encore, de lancer des séries d'attaques en mer Rouge contre des navires de commerce.
Oui, bah là c'est vrai qu'ils bénéficient, ils profitent d'une position géographique stratégique. Hein. Ils contrôlent donc cette côte, et notamment le grand port d'Odeida sur la mer Rouge où je me suis rendu. Et c'est de cette région que partent effectivement les attaques contre les navires de commerce. Il faut savoir que par ce détroit de Bab el-Mandeb que les Houthis contrôlent, passe quasiment 12% du trafic maritime mondial. Donc c'est quelque chose de considérable qui leur donne un pouvoir de nuisance absolument démesuré. Et c'est vrai qu'ils ont mené une soixantaine d'attaques, je crois, depuis octobre 2023, depuis un peu plus d'un an. C'est quelque chose qui est assez simple. Hein. Quelques hors-bord, quelques lance-roquettes, quelques combattants. Voilà, donc ça ne demande pas de technologie très, très sophistiquée.
On a évoqué le sentiment de la population à l'égard de ces Houthis. À quel point ces derniers tentent d'endoctriner la population, parce que, alors, vous évoquez cette devise qui encadre la porte principale de la vieille ville à Sanaa, qui en dit long sur l'idéologie des Houthis. Je cite, hein, Dieu est grand, mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, victoire à l'islam.
Oui, bah alors on a une idéologie effectivement qui s'est imposée depuis une dizaine d'années, depuis la prise de Sanaa, et qui on voit irrigue toute la société. On voit les fonctionnaires participer à des séminaires chaque semaine pour apprendre les préceptes de leur guide. On voit évidemment l'influence iranienne, hein, très forte sur ce régime. C'est évidemment la source d'inspiration. On voit aussi à de nombreuses reprises l'empreinte, hein, du Hezbollah libanais qui est vraiment une référence sur le plan militaire, sur le plan idéologique et aussi sur le plan politique pour les Houthis du Yémen.
Voyage au pays interdit des Houthis, grand reportage à lire donc cette semaine dans Le Point et sur votre site internet. Merci Guillaume Perrier.
Merci.
Et direction à présent Bakou, en Azerbaïdjan, la ville hôte de la COP29, qui entre cette COP29 dans sa dernière ligne droite, avec une fin qui est prévue demain vendredi. L'Azerbaïdjan, dont le choix a été vivement critiqué, outre que le pays s'illustre par son autoritarisme, il est connu pour l'exploitation de nombreux gisements pétro-gaziers. Et dans ce contexte, eh bien, comment les autorités accueillent-elles les journalistes du monde entier à cette grand-messe pour le climat? Eh bien, en proposant une véritable opération séduction. Suivez donc le guide. Jeanne Joulot est à Bakou pour RFI.
On arrive au port de Bakou, c'est l'un des ports les plus importants de la mer Caspienne. On est accueilli avec une immense photo du président Ilham Aliyev et cette inscription « Bienvenue dans le port vert de Bakou ».
Bienvenue dans notre pays, bienvenue à nos côtés. Je voudrais vous montrer ici nos différentes étapes vers un développement durable. Au niveau national, nous prévoyons de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2050.
Wow, bravo, je suis très impressionné.
Ce que je ne comprends pas, c'est que vos émissions de gaz à effet de serre proviennent à 71% des navires qui débarquent ici. Comment vous comptez faire pour remplacer cela ?
Très bonne question. En fait, ça n'est pas comptabilisé, car ce sont des émissions indirectes. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment de notre responsabilité, vous savez. Il faudrait construire des bateaux qui fonctionnent avec de l'énergie électrique.
On vient d'arriver au stade olympique de Bakou. C'est là que se tient la COP29. On a rendez-vous avec un représentant du pavillon azerbaïdjanais. Vous dites d'un côté vouloir vous tourner davantage vers les énergies vertes et à la fois vous avez prévu d'augmenter de 14% votre production de gaz et de pétrole dans les prochaines années. C'est pas un peu contradictoire ?
C'est pour cela que la COP existe, non ? C'est très important pour nous de parvenir à un bon rythme de transition vers les énergies renouvelables, car le gaz et le pétrole ne dureront pas éternellement, n'est-ce pas ? Et puis, c'est le cas de beaucoup de pays. Comme l'a dit notre président, il y a aujourd'hui une demande extérieure en énergie fossile. Nous répondons à cette demande, il y a un besoin. Et comme le président l'a dit, le pétrole, c'est un cadeau de Dieu à l'Azerbaïdjan.
Un cadeau de Dieu qui n'empêche pas à l'Azerbaïdjan de tout faire pour verdir son image à l'international. En ligne, des influenceurs sont payés pour mettre en avant les quelques projets renouvelables de l'Azerbaïdjan, sans jamais mentionner toutefois que le mix énergétique du pays repose encore aujourd'hui à 98% sur les énergies fossiles. Au lendemain de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a signé un accord avec Bakou prévoyant de doubler les importations de gaz azerbaïdjanais afin d'atteindre au moins 20 milliards de mètres cubes par an d'ici 2027. Jeanne Joulot à Bakou, RFI.
Et retour à Paris bientôt 19h29, donc ça veut dire bientôt Afrique Soir, la première édition, ça sera dans une minute à la une. L'écrivain Boualem Sansal en Algérie, qui depuis une semaine est en garde à vue dans les locaux des services de sécurité à Alger. Et puis, j'en profite pour vous dire la suite, après il y aura le journal de 19h temps universel, Accent d'Europe, et puis le grand reportage à l'occasion des 1000 jours de guerre en Ukraine, le défi de la mobilisation. On va rester à l'écoute de RFI.
Ce samedi sur RFI... Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le développement de l'Afrique passera par l'innovation et pas que dans la tech. 4 dirigeants d'entreprises dans l'assurance, les télécoms, l'énergie, la finance nous disent leurs priorités et leurs idées. Ils veulent un continent moins inégalitaire et qui miserait davantage sur le capital humain.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Les représentants des 195 pays réunis pour la COP29 sur le climat à Bakou piétinent. Qu'est-ce qui bloque? Et si nous ne pouvons pas compter sur cette instance internationale, comment pouvons-nous affronter le changement climatique? Nous faisons le point avec nos invités.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 23h10 TU.
RFI.